Vous écoutez toujours RFI, il est 9h09 à Port-au-Prince, 15h09 ici à Paris. C'est l'heure de retrouver le journal d'Haïti et des Amériques avec Marion Cazanov. Bonjour Marion.
Bonjour Victor, bonjour à tous. À la une, la violence des gangs en Haïti à Cité Soleil. Plus de 50 personnes ont été tuées ces derniers jours face à une police impuissante. Ils se déplacent peu, d'où l'importance de cette visite. Le président mexicain rencontre aujourd'hui son homologue américain à Washington. Le mois dernier, Andrés Manuel López Obrador, surnommé AMLO, avait boycotté le sommet des Amériques à Los Angeles. AMLO et Biden n'entretiennent pas les meilleures relations. On verra les enjeux de cette visite avec notre invité David Recondo, chercheur au Centre de recherche international de Sciences Po. Dans la presse, on parlera aussi de Facebook et Instagram, sommés de s'expliquer après avoir retiré de leur plateforme des informations pour l'accès à l'avortement aux États-Unis. Et puis, dans une quinzaine de minutes, le journal de l'Outre-mer avec vous, Oda Najiali, à la une, la mauvaise gestion de l'eau en Guadeloupe qui est une nouvelle fois pointée du doigt.
Oui, la situation est même catastrophique avec un prix de l'eau très élevé mais un rendement particulièrement faible. C'est ce qui ressort des dernières données des services publics d'eau et d'assainissement et on analyse ce rapport national tout à l'heure, Marion.
Merci Odan, à tout à l'heure donc.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, toujours secoué par la violence des gangs, de nouveaux affrontements ces derniers jours ont fait une cinquantaine de morts en banlieue de Port-au-Prince, la capitale. Ces affrontements paralysent l'activité de quartiers entiers. Les enlèvements aussi se multiplient et cela toujours dans l'impunité face à une police impuissante. Correspondance à Port-au-Prince d'Amélie Baron.
Les rafales de tirs d'armes automatiques crépitent depuis le début du week-end à Cité Soleil. Deux groupes de gangs rivaux s'affrontent dans cette commune qui est la plus pauvre de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Et s'il reste difficile à établir de façon fiable, le bilan est lourd. Selon le maire intérimaire de la ville, il y aurait au moins une cinquantaine de morts et une centaine de blessés. La plupart seraient des membres de ces bandes criminelles, mais des victimes sont aussi à déplorer du côté des habitants, contraints de rester cloîtrés chez eux. Bien qu'elles soient très défavorisées, contrôler cette zone est d'un grand intérêt pour les gangs. Sa forte densité de population la rend stratégique sur le plan électoral. Aussi, un terminal pétrolier se trouve dans cette commune. Depuis vendredi, à cause des violences, le site est d'ailleurs complètement à l'arrêt, ce qui aggrave la pénurie de carburant. Si l'insécurité est majoritairement concentrée dans la capitale, les gangs ne sont pour autant pas absents en province. Une bande criminelle que l'on croyait disparue suite à l'arrestation puis la mort de son chef refait surface dans le département de l'Artibonite. Des membres de ce gang auraient tenté, sans succès, de prendre un commissariat d'assaut.
On reste encore un peu en Haïti. Bonjour Achim Lippold.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Et les affrontements entre gangs à Cité Soleil, c'est aussi à la une de la presse.
Oui, dans le Nouvelliste, le maire de Cité Soleil, maire par intérim, Joël Janéus, évoque en plus des 52 morts, 110 personnes blessées. Il s'agit surtout des civils, dit-il, qui tentent de fuir les combats. Le maire admet son impuissance face à ce qu'il qualifie de guerre fratricide. Il ne peut rien faire, il n'a pas les moyens et la police est absente dans la zone, explique est-il au journal. À cause des affrontements et les habitants des quartiers assiégés manquent de tout, et notamment d'eau et de pain, souligne le maire par intérim, tout en dénonçant dans le Nouvelliste ceux qui fournissent des armes à ces gangs. L'insécurité en Haïti fait aussi la une d'Alta Press. Le site d'information publie une interview avec le directeur du Réseau national de défense des droits humains. Selon Pierre Espérance, la hausse de la criminalité est liée à l'impunité, mais aussi au peu de prix accordé à la vie humaine. En Haïti, les attaques menées à Cité Soleil ne dérangent pas ceux qui ont fait alliance avec le Premier ministre de facto. Le secteur privé, l'Église et autres sont confortables avec la banalisation de la vie de la population, regrette Pierre Espérance.
Achim Lippold, on vous retrouve pour la suite de votre revue de presse dans quelques minutes. Avant cela, parlons d'une rencontre qui sera scrutée de près un mois après le sommet des Amériques à Los Angeles. Cette rencontre, c'est celle d'Andrés Manuel López Obrador et de Joe Biden à Washington. Les présidents mexicains et américains se parleront tout à l'heure. On se souvient que le président mexicain avait boudé ce sommet des Amériques. Il regrettait la non-invitation de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua. David Recondo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre de recherche international de Sciences Po, spécialiste de l'Amérique latine. D'abord, David Recondo, sous quels auspices se présente la rencontre d'aujourd'hui ?
Écoutez, c'est plutôt bien engagé si l'on en croit les déclarations des deux chefs d'État, en fait. Alors, le contexte n'est pas très, très bon, hein. Il est très compliqué, mais en même temps, il y a un certain nombre d'éléments de déclaration, puis le contexte politique états-unien qui pourrait donner à penser que cette visite serait l'occasion de mettre sur la table des négociations, des sujets importants, qu'éventuellement l'agenda des négociations pourrait avancer dans le bon sens. Donc c'est mitigé, mais le contexte, à mon avis, est plutôt favorable à une visite qui pourrait être plutôt fertile.
Alors pourtant, la relation entre Biden et Obrador est assez compliquée. Il semble que López Obrador, qu'on surnomme AMLO, s'entend bien plus mal avec Biden qu'avec Donald Trump. C'est un paradoxe, d'ailleurs, quand on se souvient des propos de Trump à l'égard du Mexique.
Oui, c'est un paradoxe, mais il faut faire attention, en fait, il y a deux niveaux de lecture. Le premier niveau, c'est un niveau de déclaration qui ont été faites du temps de la présidence de Trump, où on a l'impression que le ton des deux présidents correspond à peu près. Il y a un certain type de populisme des deux côtés, et du coup, il y a des déclarations qui laissent entendre un entendement, une compréhension mutuelle, etc. Mais si on va à un deuxième niveau de lecture sur les priorités des uns et des autres, des deux présidents, on a quand même des affinités qui sont bien plus importantes qu'elles ne l'étaient du temps de président Trump. Joe Biden a d'une part un intérêt à régulariser la migration et notamment essayer de trouver des accords pour qu'il y ait une régularisation des travailleurs saisonniers mexicains, par exemple. Il a des clins d'œil à faire à un électorat latino-hispanique, comme il l'appelle aux États-Unis, dans la perspective des élections au Congrès de novembre prochain. Donc, il n'est pas sur une approche sécuritaire, même s'il a la pression évidemment des républicains et de leur électorat sur cette question-là, mais il a plutôt une approche, celle de Joe Biden, des démocrates en général, d'essayer de trouver des accords, disons, de régularisation de la migration. Donc, je pense que dans le fond, si on dépasse un peu le niveau des déclarations qui peuvent être un peu démagogiques, on aurait potentiellement quand même des affinités de fond entre Andrés Manuel López Obrador et Joe Biden.
Vous avez, David Recondo, abordé ce côté de enfin, Joe Biden qui essaie de, comment dire, dans les sujets qui seront abordés aujourd'hui entre AMLO et Biden, il y aura l'immigration. Vous l'avez abordé côté Biden. Et AMLO, le président mexicain là-dessus, qu'est-ce que lui voudrait obtenir? Qu'est-ce qu'il va demander à Joe Biden?
Ben, on a un record de migration. Hein, les Mexicains font partie du contingent, hein, important de l'émigration vers les États-Unis, même si, par exemple, on va dire dans les passages, on calcule à peu près en moyenne une moitié de Mexicains et le reste étant plutôt des Centra-Américains. Mais bon, ces Centra-Américains passent par le Mexique aussi, donc c'est un véritable enjeu pour le Mexique. Donc le président mexicain vont chercher à établir des conditions d'accès régularisées avec des visas de travail, des visas saisonniers, des visas pour les travailleurs mexicains, mais aussi négocier des aides pour le développement des pays centra-américains. Ça, c'est important. Les deux choses sont inséparables. C'est-à-dire trouver un moyen de régulariser et de faire en sorte que la traversée, le passage des migrants vers les États-Unis ne soit pas ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dangereux, mortel dans énormément de cas, inhumain. Donc, essayer d'établir des formes régulières de passage avec des visas qui puissent être délivrés par le gouvernement des États-Unis, et puis en même temps négocier des aides, une coopération des deux pays, États-Unis, voire même Canada, États-Unis, Mexique, pour éviter, disons, qu'il y ait autant de migration en provenance d'Amérique centrale.
Il y a aussi d'autres sujets qui seront peut-être abordés aujourd'hui, des sujets plus délicats pour le Mexique, comme l'environnement. Biden, lui, voudrait pousser le Mexique à respecter les lois environnementales. Pourquoi est-ce que ça crispe côté mexicain?
Le côté mexicain, on a un gouvernement qui a mis l'accent d'abord, comme cela a été le cas dans certains gouvernements de gauche en Amérique du Sud, hein, celui de la Bolivie, celui du Venezuela, d'autres gouvernements qui ont eu une orientation à gauche ces 10 dernières années, disons, en Amérique latine. C'est des gouvernements qui mettent l'accent d'abord sur le développement et la redistribution, la lutte contre les inégalités, le développement en général, l'amélioration des conditions de vie de la population et qui tente à considérer que lorsqu'on parle changement climatique et politique écologique, on est un peu dans une perspective élitiste qui est un argument qui vise à empêcher, disons, un certain nombre de démarches de réindustrialisation d'un côté, de réaménagement du territoire de l'autre, etc., d'infrastructures en général qui permettraient une amélioration du développement économique et une amélioration du développement de populations qui jusqu'à maintenant ont été réduites à la pauvreté, qui ont été dans des conditions, disons, sociales difficiles. Donc la priorité, c'est réduire la pauvreté, créer un développement économique dans le pays qui permette à ces populations de sortir de la pauvreté. L'enjeu écologique est au second plan et c'est ça certainement qui crée des problèmes, des tensions entre les deux pays.
Merci David Recondo. Je rappelle que vous êtes chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de l'Amérique latine. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI. Je rebondis sur le sujet après la rencontre avec AMLO. Joe Biden s'envolera au Proche et au Moyen-Orient. Arim Lipold, on vous retrouve pour la suite de votre revue de presse. Arim, le président américain sera vendredi en Arabie Saoudite. C'est une visite controversée.
Oui, et durant sa campagne présidentielle, Joe Biden avait promis de faire de l'Arabie Saoudite un État paria, c'était pour obtenir des votes, écrit le Washington Post aujourd'hui. Et si le chef de la Maison-Blanche se rend donc à Riyad et serre la main entachée de sang du prince Mohamed Ben Salman, eh bien c'est dans le même but, estime le journal. Joe Biden a justifié le voyage en affirmant qu'il souhaite promouvoir la stabilité dans la région et dissuader la Russie et la Chine de toute tentative d'agression, mais en rencontrant MBS, eh bien il donnera à ce dernier quelque chose que toutes ses campagnes de communication n'ont pas réussi à faire, à savoir de la reconnaissance internationale. Et par la même occasion, Joe Biden montre aussi que les valeurs américaines sont négociables, souligne le Washington Post.
Restons aux États-Unis où la commission sur l'attaque du Capitole reprend ses auditions publiques aujourd'hui. David Thompson, ses membres vont se pencher sur le rôle des milices d'extrême droite dans la préparation du 6 janvier et leur lien avec l'ancien président.
Une question au cœur de cette septième et dernière série d'auditions. Que savait Donald Trump de la préparation du 6 janvier par les deux milices d'extrême droite, les Housekeepers et les Proud Boys, dont les chefs sont actuellement en prison poursuivis pour sédition, un crime fédéral passible de 20 ans de prison. Question subsidiaire, y a-t-il eu des contacts entre ces milices en première ligne dans l'invasion du Capitole et l'entourage de Donald Trump, voire avec Donald Trump lui-même? Pour des raisons de sécurité, les noms de certains témoins du jour sont tenus secrets, mais la commission devrait diffuser des extraits de ses auditions avec des membres du premier cercle de l'ancien président proche de ces milices, dont son ancien conseiller, le sulfureux Roger Stone, ainsi que le général Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale proche des milieux conspirationnistes QAnon. Dans ses auditions, résume l'un des membres de la commission, nous allons établir les liens entre ces groupes et ceux qui ont essayé dans les cercles gouvernementaux de renverser l'élection. David Thompson, Miami, RFI.
Et toujours aux États-Unis, des sénatrices américaines ont demandé hier à Facebook et à Instagram de clarifier leur politique concernant les messages de services d'aide à l'avortement. Ces deux réseaux sociaux, Arim, avaient retiré des informations et des publicités concernant l'IVG alors que celle-ci ne violait pas le règlement des entreprises.
Oui, c'est-à-dire sur le site d'information Axios, deux sénatrices démocrates, effectivement, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren, se disent inquiètes face à ce qu'elles appellent une censure exercée par Meta. Meta, vous savez, la maison mère de Facebook et Instagram. En fait, après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit constitutionnel à l'avortement, eh bien, les messages d'information et de mobilisation contre cette mesure se sont multipliés sur les plateformes, tout comme des propositions d'envoyer ou de réceptionner des pilules contraceptives par la poste. Selon les sénatrices qui s'appuient sur des informations divulguées par la presse, eh bien, des publications sur l'accès à des services légaux d'avortement ont été retirés et souvent quelques secondes à peine après leur mise en ligne, écrit le site TechCrunch. D'après les sénatrices citées toujours par Axios, il est plus important que jamais que les réseaux sociaux ne censurent pas des informations véridiques sur l'IVG au moment où les gens se tournent vers des forums en ligne pour obtenir des informations concernant le droit à l'avortement. Dans une réaction via Twitter, le porte-parole de Meta, Andy Stone, justifie la suppression des messages en rappelant qu'il est, entre autres, interdit d'acheter ou de demander des médicaments sur les réseaux sociaux, sur leurs réseaux sociaux en fait. Selon Stone, les contenus qui évoquent la disponibilité des médicaments sous ordonnance sont permis, ce que contestent cependant les sénatrices. Elles citent plusieurs exemples où de simples informations sur le droit à l'avortement postées par exemple par une ONG ont été retirés et leur site temporairement bloqué.
Et enfin, autre sujet dans la presse, arrive un violent feu de forêt en Californie et qui menace les fameux séquoias géants du parc de Yosemite.
Oui, les pompiers sont dans une course contre la montre pour sauver des flammes ces beaux arbres, écrit le Los Angeles Times, des flammes qui se sont dangereusement rapprochées d'une zone de 500 séquoias dont le Grizzly Giant, haut de plus de 60 mètres et vieux d'environ 3000 ans. Afin de protéger ces trésors de la nature, les pompiers arrosent le sol autour des séquoias d'eau en permanence. Selon le Los Angeles Times, les séquoias supportent généralement assez bien la chaleur, mais ces dernières années, ils ont été de plus en plus victimes d'incendies qui ont tendance à se multiplier en Californie. L'année dernière, les flammes avaient détruit plus de 3000 séquoias, soit 3 à 5% de la population mondiale.
C'était la revue de presse d'Arim Lipold. Merci Arim.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Odana Jiali, à la une de votre journal, ce rapport qui pointe la situation catastrophique des usagers de l'eau en Guadeloupe.
Oui, bonjour Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le prix du mètre cube d'eau est particulièrement élevé dans le territoire, alors que le rendement reste très faible. Voilà ce qui ressort de la compilation des données des différents services publics d'eau et d'assainissement de France. Le document concerne l'année 2020 et montre à quel point les Outre-mer sont à la traîne, et en particulier donc la Guadeloupe, Franck Aristide.
L'eau de Guadeloupe est l'une des plus chères de France en 2020, Outre-mer compris. À titre d'exemple, à La Réunion, le mètre cube coûte 4 euros de moins. Des coûts extrêmes donc pour la Guadeloupe, pour un rendement minime. Là aussi, l'un des pires de France, Outre-mer encore une fois compris. Pour être conforme aux exigences réglementaires, il doit être de l'ordre de 85%. Chez nous, en raison des fuites sur le réseau, en 2020, il était toujours en dessous de 60%. Résultat qui légalement oblige à s'attaquer au problème de la déperdition. Côté connaissance du réseau, une fois de plus en 2020, c'est encore la Guadeloupe qui s'illustre par ses mauvais chiffres. Enfin, côté consommation, c'est l'Outre-mer qui utilise le plus le précieux liquide, surtout la Réunion et la Martinique, quasiment deux fois plus que les départements de l'Hexagone.
Le CHU de Guadeloupe, condamné hier à une peine de 200 000 euros d'amende avec sursis pour deux homicides involontaires. Il s'agit de deux patients décédés faute d'une prise en charge suffisante. Un septuagénaire mort en 2011 d'un arrêt cardiaque après avoir été délaissé pendant 21 heures sans examen médical réel. L'autre patiente, admise en 2014 pour des troubles psychiatriques, était restée attachée 4 jours sur un brancard, ce qui aurait causé son décès. Puis on reste en Guadeloupe avec cette question. Que s'est-il passé à Sainte-Rose, au nord de la Basse-Terre? Hier, des dizaines de poissons ont été retrouvés morts dans l'étang de Nogent. Une enquête a été ouverte. L'Office de la biodiversité a procédé à des prélèvements pour Fortuné Guiougou, le président de l'association Le Gaillac. C'est une véritable catastrophe écologique, il l'a dit à Nicolas Pietrus.
Ce que je vois, c'est qu'il y a un petit étang où il y a des centaines de kilos de poissons de mort. Et cet étang est fréquenté par des oiseaux migrateurs, par des bœufs qui viennent s'abeuvrer. Donc moi, ce que j'attends, bon, c'est une catastrophe écologique parce que vous avez une biodiversité de poissons morts là, incroyable, des écrevisses. Et ce que j'attends, c'est que les autorités viennent et fassent leur action, c'est-à-dire ramasser tous ces poissons pour qu'ils ne puissent pas pourrir et empoisonner l'eau pour les oiseaux et les bœufs, et surtout pour nettoyer cet étang et évidemment connaître la cause, parce que ça peut être une diminution de la profondeur d'eau, mais la manière dont je vois que c'est un peu réparti partout dans l'étang, ça peut être aussi une substance toxique qui a été déversée et que la pluie a ramenée.
Un résultat des analyses dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal de l'Outre-mer. Bonne journée.
Merci Oda Najiali. C'est ainsi que se referme ce journal d'Haïti et des Amériques avec à la réalisation Claude Battista et je le remercie. On se retrouve demain à la même heure, 13h10, temps universel. En attendant, merci d'être à l'écoute sur la Radio du Monde.